France Musique. Musicopolis. Un matin de mars 1918, Londres. À 60 ans, Edward Elgar, distingué compositeur britannique, est depuis toujours embêté par des maux de gorge, inflammations et autres désagréments de la sphère ORL, à tel point que les médecins décident que malgré son âge, il faut l'opérer des amygdales. Sa fille Caris écrit « Il a eu vraiment très mal pendant plusieurs jours. À l'époque, il n'y avait pas encore de sédatifs comme nous en avons aujourd'hui. Mais cependant, il s'est réveillé un matin, il a demandé du papier et un crayon et il a écrit une mélodie. » Ici s'arrête la mélodie écrite par Edward Elgar après son opération des amygdales en mars 1918. Depuis 1914, il n'a pas beaucoup composé. Cette guerre l'affole, le révulse, lui fait horreur. Consterné, il ne se sent pas en veine. Il a seulement mené à bien la mise en musique de trois poèmes tout récents de Lawrence Binyon. Le dernier, For the Fallen, est probablement le texte poétique britannique le plus connu de cette époque. Ils ne deviendront pas vieux comme nous qui pouvons devenir vieux. L'âge ne va pas les rendre là. Ils ne seront pas condamnés par les années. Lorsque le soleil descendra, et le matin, nous nous souviendrons d'eux. Elgar n'arrive pas à composer. Cette guerre est tellement différente de ce qu'il a connu. Au XIXe siècle, une guerre tuait 20 000 Britanniques en 2 ans et demi. À présent, on peut aller jusqu'à 20 000 par jour. Il écrit à son ami l'historien Sir Sidney Colvin « Je ne peux faire aucun vrai travail avec cette ombre affreuse au-dessus de nous ». Pourtant, sa musique est entendue souvent. La partie centrale de sa marche, Pompe et circonstances numéro 1, avec de nouvelles paroles de Arthur Benson, est devenue une sorte d'hymne anglais bis, propre à remuer les foules patriotes. Le succès de ce Pompe et circonstances d'Elgar en Grande-Bretagne est proprement incroyable. Lors de la première londonienne en 1901, alors qu'il n'y avait pas encore de paroles, Henry Wood, le chef d'orchestre, raconte qu'à la fin, les gens se sont levés et ont hurlé. Il a été obligé de rejouer une deuxième fois Illico Presto, avec le même résultat. Le public ne voulait pas que le programme continue, il voulait réentendre la pièce encore une fois. Finalement, pour avoir la paix et pour pouvoir avancer, le chef a dû trisser la pièce. Seule et unique fois dans toute l'histoire des proms. Alors qu'on chante très souvent son hymne « Hope and Glory », Elgar écrit à une amie « Des tirs, des raids, je ne suis pas bien et l'endroit est tellement bruyant et je ne dors pas. Les fusils sont ce qu'il y a de plus tranquille ici. Je languis de la campagne, j'y pense tout le temps. J'ai beaucoup pensé aussi à nos festivals perdus, plus de musique. Tout ce qui était bon et doux et propre et frais et délicieux est loin maintenant et ne reviendra jamais. » Très abattu par la guerre, Elgar veut s'éloigner de Londres pour passer l'été 1917. Son épouse Alice, qui est aussi sa muse, sa conseillère et sa secrétaire, trouve une maison à louer dans le Sussex, au sud de Londres, Brinkwells. « C'est divin », écrit Elgar. « Un simple cottage au toit de chaume et un studio avec une vue merveilleuse. Un grand jardin pas entretenu, du travail pour 40 hommes. » Il y a des bois et le compositeur peut troquer la plume pour la scie et le marteau. Il a une passion pour le travail du bois. Les Elgar ont passé là l'été 1917. Ils reviennent en 1918, après l'opération des amygdales. À côté des travaux des champs, Edward se sent l'envie de composer à nouveau. Il fait venir son piano, il ressort son papier à musique. Coup sur coup, Elgar produit trois œuvres de musique de chambre qu'il commence toutes les trois pendant l'été 1918. Il joue lui-même du piano et du violon et la sonate pour violon coule sans problème de son esprit. Pareil avec un quintet piano et cordes. Entre la sonate pour violon et le quintet pour piano et cordes, Elgar mène à bien aussi un quatuor à cordes. Là encore, son habileté de violoniste lui rend la tâche aisée. Pendant qu'il est dans la chaumière de Brinkwells, à l'été 1918, Edward Elgar travaille d'arrache-pied, inspiré qu'il est par l'environnement, les arbres, la nature, ses promenades. Et pendant tout ce temps, la petite mélodie qu'il a écrite pendant qu'il était à la clinique pour son opération des amygdales le poursuit. La mélodie chante toujours en lui, mais Elgar ne sait toujours pas ce qu'il va en faire. Il ne sait pas comment l'orchestrer, ni à quel instrument la destiner. Le soir, dans le Sussex, on entend les bruits de la guerre sur le continent qui traverse la Manche. La famille Elgar revient à Londres pour l'automne. Le 11 novembre, c'est l'armistice. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Le monde a changé, les millions de morts pèsent sur les esprits. Peu à peu, Elgar se décide. Ce sera un concerto pour violoncelle. Les trois œuvres de musique de chambre qu'Elgar a composées à Brinkwells sont créées en mai 1919 à Londres. Après quoi, il retourne dans la chaumière du Sussex, où il travaille activement à son concerto. Si la guerre est finie, l'œuvre n'en est pas gaie pour autant. Le début est particulièrement frappant. Un commentateur anglais a une comparaison très parlante pour le début de ce concerto d'Elgar. « Imaginez, écrit-il, si le Hamlet de Shakespeare commençait directement avec le prince, seul en scène, déclamant « to be or not to be ». Pas d'explication, pas de mise en situation, seulement un personnage seul, pensant tout haut, nous laissant faire ce que nous voulons de ce qu'il dit. » Elgar fait exactement ça en musique au début du concerto, plaçant l'auditeur d'emblée au milieu de l'histoire dès les premières mesures. Si le climat général du concerto d'Elgar est mélancolique et même parfois rude, comme au tout début, une chose est sûre, on trouve dans la longue mélodie qui a initié le concerto une inspiration populaire. comme aussi dans la deuxième mélodie du mouvement, un peu plus légère et toujours dansante. La région de Fittleworth, où se trouve la chaumière que loue Elgar, est tout ce qu'il y a de charmante. Un paysage de bocage, avec des prés, des champs, des haies, des collines très basses, des landes aussi près de la mer, beaucoup de verre et des maisons avec jardins à l'anglaise débordant de fleurs. Elgar y trouve son compte, lui qui est né à la campagne, plus au nord, dans le Worcestershire. Le 2 juin 1919, jour de ses 62 ans, Elgar reçoit à Brinkwells la visite du chef d'orchestre Landon Ronald. Il lui joue au piano de nombreux passages du concerto. Le 10 juin, à Londres, c'est le violoncelliste Félix Salmond qui déchiffre la partie de soliste. Félix Salmond a fait partie au mois de mai des musiciens qui ont créé le quatuor et le quintet. Alice Elgar écrit dans son journal « Félix Salmond tout à fait enchanté et enthousiaste ». Le troisième mouvement du concerto pour violoncelle d'Elgar est un adagio, et il a une atmosphère de nocturne, qui rappelle par moments Schumann, dont Elgar a beaucoup admiré la musique lorsqu'il est allé à Leipzig dans ses jeunes années. À la fin de juillet 1919, Elgar informe son ami Sir Colvin qu'il a presque fini un concerto pour violoncelle, une œuvre longue qu'il pense bonne et vivante. Elgar a demandé à Félix Salmond de donner la première du concerto sous sa direction. La création est prévue pour le 27 octobre 1919 avec l'Orchestre symphonique de Londres. La création du concerto pour violoncelle a été très bien préparée par Félix Salmond, le soliste. Et Elgar, lui aussi, est un chef tout à fait compétent. Néanmoins, les autres œuvres du concert doivent être dirigées par Albert Coates, qui prend pour lui presque tout le temps des répétitions. L'orchestre n'est pas prêt pour le concerto, pas prêt du tout. La première va être un désastre. Les critiques sont scandalisées par la médiocrité de l'orchestre. L'un d'eux écrit pourtant: l'œuvre elle-même est une chose charmante, très simple, de cette simplicité expressive qu'on entend dans la musique d'Elgar depuis 2 ans, mais avec beaucoup de profonde sagesse et de beauté sous la simplicité. Un bel esprit toujours mélancolique, méditant sur la beauté de la terre. Le final du concerto pour violoncelle d'Edward Elgar, Truls Mörck au violoncelle avec l'orchestre de la ville de Birmingham, dirigé par Simon Rattle. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dozolm et Françoise Monteil pour les recherches et le site, Alain Joubert pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.